Bonsoir et bienvenue dans De Noir, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et donc, au sommaire de cette émission, dans une première partie, nos coups de cœur. Puis, dans une deuxième partie, nous aurons la joie de recevoir Lali Walker pour nous parler de son dernier livre, Les Survivantes, paru chez Actes Sud, ainsi de quelques ennuis judiciaires qui ne nous font pas du tout plaisir parce que cela ressemble fort à une sorte de censure. Donc, pour commencer, je vais vous parler d'une réédition, mais réédition d'un livre paru il y a 13-14 ans. Donc, je dirais que, en tout cas, pour moi, ça a été une découverte. C'est un livre que les directeurs de Zulma ont eu la bonne idée de rééditer. Cela s'appelle « Argent brûlé ». C'est de Ricardo Piglia. Et, je viens de le dire, donc, chez Zulma, c'est traduit par François-Michel Durazo.
Et Ricardo Piglia est de quelle nationalité ?
Argentine. Voilà, donc ça se passe donc à Buenos Aires et Ricardo Piglia en fait est parti d'un fait divers qui s'est réellement passé dans la capitale argentine en 1965 et il nous raconte une histoire de gangster peu ordinaire. D'abord parce que l'histoire commence après le braquage, c'est rare dans les histoires de gangsters. En fait, on va suivre la fuite éperdue, violente, presque irréaliste d'ailleurs, des braqueurs, 4 ou 5. Alternativement, l'on suit la traque des flics brutaux, corrompus, au-delà desquels d'ailleurs se profile la dictature argentine, ce qu'on a appelé, je le rappelle pour ceux qui ont de vagues notions d'histoire, comme moi-même d'ailleurs, la révolution argentine, qui, période de 66 à 73, qui était une dictature militaire avant des élections qui donc ne se sont pas passées puisqu'il y a eu un coup d'État. Il y avait les péronistes, les anti-péronistes de l'autre côté. Donc, les braqueurs se retrouvent avec 5 millions de pesos. Mais ils sont immédiatement pris en chasse par la police argentine. Ils se planquent, fauchent des vies humaines, d'ailleurs à l'aune de leur cerveau brûlé par diverses substances. Ils finissent à Montevideo, et le roman se termine un petit peu comme leur vie, en une scène apocalyptique où la police les cerne, puis donne l'assaut. C'est 110 pages du livre, les 110 dernières d'ailleurs, pour 20 heures de siège, où le langage des armes se substitue à celui des êtres humains et où les souffles de vie s'atténuent peu à peu, tandis que se répandent des traînées de sang. C'est une longue scène absolument géniale. Comme j'ai dit au départ, c'est vraiment une très bonne idée des éditeurs de Zulma que de rééditer ce roman, qui apparemment est un roman mythique des années 95-2000. C'est certes un polar, mais en fait, il utilise surtout les codes du genre pour nous raconter quelques destins tordus par le climat délétère, vicié, pourri, jusqu'à la moelle de l'Argentine de ces années-là. Donc encore une fois, on est dans les années 65-70. Et Ricardo Piglia, donc, part du fait divers, mais en fait, avec beaucoup de maestria, il brode autour de la réalité et des faits pour faire des protagonistes des personnages de romans. Là où c'est d'autant plus subtil, c'est qu'il n'en fait pas des héros romantiques, loin de là, ni du côté des flics d'ailleurs, ni du côté des truands, mais en gros, il étoffe leur destin pour mieux les replacer dans la réalité politique argentine. Il y a en particulier deux personnages, les deux jumeaux, le gaucho blond et Bébé Brignone, qui sont criminels depuis leur plus tendre enfance, depuis leur plus jeune âge, qui sont unis dans la violence, dans le sexe, dans le nihilisme, mais aussi personnages manipulés par leur chef qui flirte avec l'extrême droite. Personnage aussi intéressant, le commissaire Silva, qui profite en fait de la déliquescence de la société entre péronistes et anti-péronistes pour appliquer sa loi et non pas la loi. Et ça évidemment en toute impunité. Donc un très bon roman noir servi par une écriture précise, tout à la fois dans la retenue, mais il y a parfois des souffles épiques, en particulier dans cette dernière scène, qui en font vraiment un roman qui se lit très sérieux, mais qui se lit très facilement. Voilà, je rappelle, Argent brûlé de Ricardo Piglia, aux éditions Zulma.
Alors moi, je vais vous parler en fait d'un livre, qui est un recueil de nouvelles, mais en fait qui est en même temps le premier d'une nouvelle collection qui est parue aux éditions Après la Lune. Les collections s'appellent Invitation au Noir. Et en gros, il y a donc deux auteurs et quatre textes. Donc c'est un auteur un peu connu qui invite un auteur qu'il est moins dans son recueil, en quelque sorte.
Il y a eu déjà une collection de ce genre il y a une dizaine d'années, ou Patrick Reynal.
Même un peu plus, oui. C'est comme ça qu'on avait découvert Francis Misiot, d'ailleurs.
Voilà, je me souviens d'un titre, Un ornithorynque dans le tiroir.
Exactement. Donc ici, en fait, il ne s'agit pas du tout d'écriture à quatre mains. C'est, en fait, chacun dans son coin qui propose des nouvelles. Alors, la première nouvelle, donc l'auteur connu, c'est Caryl Ferré. On vous en a déjà parlé nombre de fois sur ces ondes, cette émission.
Son dernier livre, Zoulou, a une actualité brûlante puisqu'il se passe en Afrique du Sud.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, on peut même, sur le site du Monde, lire un livre multimédia, disons, dont Caryl Ferré fait un chapitre tous les jours jusqu'à ce que la Coupe du Monde commence, c'est-à-dire incessamment, hélas. Donc la première nouvelle de Caryl Ferré s'appelle « Fond de cale », mais n'imaginez pas du tout que ce soit un fond de tiroir, pas du tout. C'est une super nouvelle qui est grise et bretonne, d'ailleurs c'est presque un pléonasme, grise comme le temps breton, et il met en scène une jeune femme de 19 ans qui revient à Brest retrouver Pierrot, qui était son premier amour, mais il n'est plus là, elle part à sa recherche, et elle va trouver la folie. La seconde nouvelle est presque drôle, enfin, pour du Caryl Ferré en tous les cas. Elle semble autobiographique et raconte les rapports du narrateur avec son frère aîné qui est un sportif invétéré. La deuxième auteure, puisque c'est une femme, s'appelle Sophie Couronne. Ce n'est pas non plus tout à fait une débutante, car elle a déjà travaillé avec Caryl pour leur poulpe qu'ils avaient écrit en commun, dont on a parlé ici, me semble-t-il, et qui s'appelait « D'amour et de dope fraîche ». Elle avait écrit superbement toutes les parties mettant en scène Cheryl, qui est la blonde de Gabriel, le couvreur, dit le poulpe. Et donc, les deux nouvelles de Sophie Couronne mettent en scène Zita. Dans la première, qui s'appelle « Décalcomanie », c'est un très très beau titre, surtout par rapport à la nouvelle, c'est Zita, une jeune fille surdouée, fille de militaire, et elle se suicide à 15 ans. Mais, évidemment, elle se rate, puisqu'elle raconte... ce qui lui permet de raconter le début de sa vie. Sa mère dévote, une vague cousine de la folle coche de poils de carotte, ses déménagements et son goût précoce pour la lecture. Dans la deuxième, enfin, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est une nouvelle, donc. Dans la deuxième, Zita est devenue une jeune femme, elle est ingénieure du son, et elle part avec 5 collègues, femelles, c'est presque elle qui le dit, donc je peux me permettre, pour un mariage à Jeddah, donc en Arabie Saoudite, si je ne m'abuse. Les deux nouvelles ont le même humour, grinçant, le goût des mots et aussi des bons mots, ce qui est assez sympa. Et elle a vraiment déjà une écriture affirmée et un style propre. On se prend à croire que cette Zita est Sophie Couronne elle-même, car elle est rousse, elle est ingénieure du son, tout comme cette Sophie Couronne, donc c'est elle, ou qu'une simplement une coïncidence.
Ou alors elle connaît bien tout cet univers-là.
Exactement. Alors en fait, c'est marrant parce que les nouvelles ont été écrites séparément par Caryl et Sophie, mais en fait, elles semblent se répondre. L'enfance, une jeune femme, un peu d'autobiographie pour Caryl. Le ton est un peu léger, pas le noir profond dont, évidemment, Caryl Ferré nous a habitués dans la plupart de ses romans. En fait, je voulais parler de ce livre parce qu'il est très bien, et aussi parce que c'est vraiment une belle idée de collection. Et le premier commence assez fort, donc on espère qu'il va y en avoir d'autres.
Donc c'est aux éditions Après la Lune.
Aux éditions Après la Lune, et ça vaut la somme bizarre de 9,99€. Donc je répète, invitation au noir, et ça s'appelle Fond de cale.
Donc Caryl Ferré et Sophie Couronne en sont les deux auteurs.
Voilà, donc nous allons mettre un peu de musique, et on va rendre hommage à Denis Hopper qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, avec le titre phare de son film phare aussi, qui s'appelait donc...
Mythique.
Son film mythique, qui s'appelait Easy Rider, et une des chansons, c'était Born to be Wild, mais au lieu de la version de Steppenwolf, nous allons passer la version des Anglais de Slade.
Way. You're not gonna make it happen.
Donc, Born to be Wild, on part aux États-Unis pour deux livres.
Voilà, donc le premier de Larry Beinhart. Le roman s'appelle L'Évangile du billet vert. Il est paru à la série Noire, il vaut 20 € et il est traduit par Samuel Todd. Le titre original de ce roman, c'est Salvation Boulevard, soit en gros le boulevard du salut ou plutôt le boulevard de la rédemption. C'est un petit peu. C'est à vous de voir. Et avec ces deux titres, donc le titre original et le titre français, on se doute qu'il va être question de religion et de fric. Et effectivement, le héros, le personnage principal plutôt, c'est pas vraiment un héros, c'est un ex-flic reconverti, ce qui est le cas de le dire, à la fois au secteur privé, parce qu'il a quitté la police, après une rencontre avec un prêcheur presbytérien, pour le moins radical, qui est aussi un ex-flic. Il s'appelle Karl Verdenweer. Il se présente lui-même, donc profitons-en. Il parle à son patron, enfin son commanditaire, Manny. « Manny, mes dimanches sont à Dieu, mes samedis à ma femme, et 5 jours par semaine, je trime pour le billet vert. »
Rappelons que le billet vert, c'est la couleur des dollars.
Des dollars, exactement. Alors en gros, dans ce roman, tout commence par le meurtre d'un prof de philo, un athée, dont le cours à la faculté montre les dérives des religions. Et le privé, donc, Karl Verdenweer, va enquêter.
Appelle-le Karl, va.
Je l'appelais Karl. Donc le privé va enquêter pour le compte d'un avocat sur ce meurtre que tout le monde faisait passer pour un suicide au début. Et il s'ensuit un roman de près de 400 pages que Donald Westlake, qui savait du moins, puisqu'il nous a hélas quitté, de quoi il parlait quand il parlait de Polar, il a qualifié ce roman de page-turning thriller. En gros, un roman qu'on ne lâche pas une fois qu'on l'a commencé. Et effectivement, c'est le cas.
Je suis témoin, tu ne l'as pas lâché.
Voilà, mais contrairement à beaucoup de romans, disons, états-uniens, thriller, c'est pas un roman qui est simplement bien fait. Celui-là, il a à la fois du contenu et du style. Beinhart est un véritable auteur, et ce roman est un violent pamphlet, à la fois anti-Bush et anti-évangéliste, mais comme Bush et les évangélistes étaient assez liés, c'est pas tellement étonnant. Il montre les dérives de ces chrétiens qui sont prêts à donner des leçons à tout le monde, en agissant en même temps en véritable entreprise à la fois commerciale et de propagande, ou pour qui, en fait, tous ceux qui ne font pas partie de leur communauté, surtout après le 11 septembre, sont tout simplement des ennemis à combattre, selon, à convertir.
Ou à détruire.
Ou à détruire, ben c'est ça, il n'y a pas de solution.
Et tant qu'à faire, si on peut gagner plein d'argent entre-temps.
Voilà, et il faut voir que là, en plus, donc, ils veulent construire toute une ville avec une université, un hôpital, où ils seraient ensemble tous.
Oui, centre de résidence fermée, qui sont légion d'ailleurs en Floride.
Voilà, mais avec bien évidemment, le centre principal étant une cathédrale avec un grand...
Voilà. Un état religieux.
Exactement. Et évidemment, Larry Beinhart nous parle... par là même aussi de quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur si on lit ses interviews, c'est-à-dire des dérives de l'État bushiste avec le Patriot Act, qui permet en fait, en gros, de faire à peu près toute atteinte à la liberté, puisqu'il suffit de dire que c'est un acte terroriste, et puis on peut aller en taule sans vraiment de procès ou d'autre. Donc il nous montre très bien ça dans son roman. On avait déjà vu dans son précédent livre qui s'appelait Le Bibliothécaire, qui est vraiment excellent, qui vient d'être réédité dans la collection Folio Policier, les dessous du Parti Républicain avec ce lobbyisme forcené de certains pétroliers ou d'autres qui ont d'ailleurs touché un pactole dès l'arrivée de Bush au pouvoir, etc. Larry Beinhart, donc, est vraiment un auteur... qui compte, et quand on écoute la radio ou regarde la télé, ben on l'entend ou on la voit assez différemment après la lecture de ses romans. C'est un militant de la liberté, et pour faire un bon mot, c'est un auteur qui, s'il n'est pas suffisant, et il ne l'est pas du tout d'ailleurs suffisant, par contre il est tout à fait nécessaire.
Effectivement, et de toute façon, son antépénultième, qui est reparu aussi, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça.
Reality Show, qui est reparu aussi en Folio Policier, oui. Mm. Et en fait, si vous voulez vous faire une idée de ce roman, vous pouvez écouter le début du premier chapitre, lu par Larry Beinhart lui-même, un enregistrement que nous avons effectué à Lyon, et que vous entendez sur le site de La Noiraude dans la rubrique Ambiance Écriture.
Voilà, et bientôt vous aurez la version en VF, mais c'est bien d'écouter la VO.
Corinne, toi, tu restes aux États-Unis ?
Moi, je reste aux États-Unis et je vais vous parler d'un livre qui est paru chez Rivage Thriller, qui s'appelle Le chasseur solitaire. C'est de Whitney Terrell et c'est traduit par Jean-Paul Gracias. On est à Kansas City. Kansas City, c'est dans le Missouri, où s'écoule le fleuve du même nom. Pas vraiment un fleuve tranquille d'ailleurs, car celui-ci a un long passé de cadavres flottant au fil de l'eau, en gros des bookmakers, des gangsters, et puis sans oublier les noirs, parce que dans cet état, on le rappelle, qui a été sécessionniste, bien la vie d'un noir, ça vaut pas grand-chose, ça valait pas grand-chose et ça vaut toujours pas grand-chose. D'ailleurs, même après les lois antiségrégationnistes, la ville est restée bel et bien coupée en deux, les blancs d'un côté, les nègres de l'autre. J'emploie le terme « nègre » à dessein. Ainsi, Stan Granger, un gars du coin qui a une certaine importance dans ce livre, l'énonce tranquillement, je le cite. « Avant mes 30 ans, je n'avais jamais connu de noir vivant. » Vous imaginez. Tout ça, c'est du passé, et ce n'est pas un noir que Stan Granger tient au bout de son hameçon, mais Clarissa, fille d'une vingtaine d'années, et surtout fille du juge Sayers, un des hommes les plus puissants de la ville. Bien sûr, les soupçons se portent immédiatement sur Booker Short, qui est le petit ami noir de Clarissa, et qu'elle exhibait d'ailleurs depuis un moment en une provocation d'ailleurs très étrange. On est dans un polar, mais encore on est à la frontière du genre. On va pas vraiment suivre l'enquête, mais on va retourner en arrière dans les vies de Clarissa, dans les vies de Booker Short, de Stan Granger, et puis le rapport de Booker Short, rapport très malsain qu'il entretient avec son patron actuel, Mercury Chapman, riche blanc, et qui semble payer une lourde dette à Booker Short, dette qui date du grand-père de Booker Short, lorsque lui et Chapman combattaient en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on découvre petit à petit toute cette société bien hypocrite, bien bourge, que régit encore des codes et des règles qui semblent dater du 19e siècle. Mais derrière les volets et les rideaux, que de secrets et que de drames. Je dirais que c'est une histoire pas nouvelle, pas récente. On va pas parler de James Lieber, que des romans qui dénoncent le racisme aux États-Unis, il y en a des tas, qui dénoncent la société bourgeoise blanche, les WASP, il y en a des tas. Mais ce qui m'a vraiment impressionné dans ce roman, c'est l'écriture. Dans la description aussi bien des paysages que lorsqu'il aborde l'intime de chacun des personnages. C'est magnifique, des phrases recherchées, ciselées, de longues phrases à tiroir où une idée enchaîne avec une autre idée et où on va découvrir aussi bien le pays que les hommes. Traduction superbe de Jean-Paul Gracias. Et le mieux, c'est d'aller acheter de livres et d'aller vous régaler avec cette écriture. Un style vraiment remarquable. Pas toujours facile, mais fascinant.
Donc on rappelle Whitney Terrell, Le chasseur solitaire, paru aux éditions Rivage Thriller.
Traduit par Jean-Paul Gracias.
Voilà, le roman précédent dont on vous a parlé, donc c'est L'évangile du billet vert de Larry Beinhart à la série noire. Et la nouvelle collection Invitation au noir, chez Après la Lune, le roman s'appelle Foncal, Carrie Ferré, Sophie Couronne.
Et je crois que tu as oublié le premier roman dont j'ai parlé, Argent brûlé, de Ricardo Piglia, aux éditions Zulma.
Au revoir, à tout à l'heure.